Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio cousues main, un thème, 4 épisodes. Cette semaine, on rediffuse Les Prix littéraires, une série de Stéphane Bonnefoy, réalisée par Guillaume Baldi. Au départ de cette série, il y a ce jour de gloire et ces effluves de laurier pour Éric Vuillard et ce mois de novembre parisien sur lequel s'abattent les prix littéraires et les premières pluies d'automne. Ces noms devenus familiers et qui sont la bannière d'on ne sait plus bien quoi, Médicis, Renaudot, Académie française, Interallié, Femina, Décembre et Goncourt. Comme un refrain qui enfièvre le petit monde de l'édition et des médias culturels et qui n'a pas toujours grand-chose à voir avec la littérature. Alors on peut comprendre certains auteurs qui crachent dans une soupe qu'ils trouvent bien amère, s'étonner de ces lecteurs qui sont prêts à tout pour devenir jurés, et on peut aussi aller voir ailleurs dans les coulisses d'un prix qui se veut sulfureux. Alors pour commencer, les personnages. Un auteur qu'on appelle le président, des lecteurs qui veulent passer un bon moment, des blogueurs littéraires enthousiastes, des commerciaux qui sont tout sauf naïfs, une libraire qui veut monter un prix vraiment littéraire et une auteure qui ne mâche pas ses mots. Ensuite, le décor. Des rencontres en province et à Paris, une grande brasserie parisienne comme on n'en fait plus, de joyeux débats, des remises de prix, des discours trop lus, des salles de réunion et même un noyer dans un jardin d'été. On est en France et en public, juste avant la remise d'un prix des lecteurs, et ce jour-là, tout le monde adore les livres.
Roman d'anticipation, de science-fiction, superbe conte philosophique engagé, mais tellement juste et dépourvu de clichés, défaite des maîtres et possesseurs force le lecteur à s'interroger en exposant subtilement et didactiquement une vérité qui gêne. Il résonnera encore longtemps, croyez-moi, en vous après avoir tourné la dernière page. Franchement, lisez-le.
Alors maintenant, c'est le grand moment, sous le contrôle d'un huissier en qui nous avons toute confiance. Le résultat est, chère Christine,
Défaites et maîtres et possesseurs de Vincent Message.
Je voudrais faire quelques remerciements à toute l'équipe du prix Orange, ceux qui l'organisent, à tous ceux qui ont participé au jury, aux internautes qui ont voté pour le livre. C'est assez beau, un prix qui est à la fois un prix de professionnel du livre, d'écrivain, de libraire, de lecteur, parce que ça compose bien la variété du paysage littéraire. Merci beaucoup d'être là ce soir avec moi.
Je voudrais...
août 2015. La décision est prise, le nom est trouvé grâce à ma fille Marine, la première page du blog est officiellement mise en ligne. Elle avait été écrite quelques jours plus tôt. 16 février 2016, 6 mois après, 122 articles, 6100 visiteurs, 13 900 vues. Avec les participations aux différents jurys, j'y reviendrai très rapidement, les rencontres littéraires à venir, les 6 prochains mois devraient être assez intenses du point de vue livre. Il va falloir que j'essaye de ne pas prendre trop de retard dans la publication. Ce n'est pas gagné.
Le lecteur est un... Enfin, le jury de lecteurs, c'est un fantasme. C'est le fantasme de se dire qu'on a pris 15 personnes toutes différentes, qui sont donc tous des lecteurs différenciés et que tous ont aimé un livre. Ce qui signifierait donc qu'en fait, vous touchez à quelque chose d'universel. Voilà. Et c'est cette recherche d'universalité que tous les prix ratent.
Lecteur, le nouveau jury. Stéphane Bonnefoy, Guillaume Baldi.
Le président hors Sénat nous a laissé libre cours à la parole. Donc on
s'opposer, entre guillemets, gentiment, mais en s'opposer entre lecteurs et écrivains professionnels, ou entre lecteurs et libraires, puisque certains libraires, c'est leur métier.
Benoît Lacoste.
Ont des chouchous aussi, et ne comprennent pas comment des lecteurs, qui plus est amateurs, n'ont pas la même idée sur certains livres qu'eux. Quand on mélange justement des professionnels et des amateurs, j'estime que le prix a encore une plus grande valeur, parce que le roman qui va être mis en avant, mis en exergue, aura eu le consensus au moins de autant de professionnels que l'amateur. Et de ce côté-là, pour moi, le prix n'a que plus de valeur.
Sylvie Ducas, quelle est l'histoire de ces prix littéraires composés de jurys, qu'on dit populaires, et qui fleurissent souvent au printemps d'ailleurs?
Oui, c'est les prix de printemps, elles appellent aussi les prix de printemps, prix populaire à jury tournant, prix démocratique, etc. Alors, ils émergent à une époque qui n'est pas anodine, hein, c'est juste après 68, 1970, 1975, on voit apparaître des prix, donc c'est le prix du livre inter, le grand prix d'électrice de L, prix RTL Lire, etc. Des prix qui sont, qui apparaissent alors comme des anti-prix Goncourt, à l'époque sans doute où les prix littéraires ont été les plus contestés. Les années 70, c'est l'année où vraiment, c'est à la même époque où on interdit les prix dans les écoles, hein. C'est-à-dire le prix représente une espèce de système arbitraire où on désigne des bons pour mieux faire ressortir les mauvais, voilà, dont on veut plus, au nom d'une espèce d'égalité de tous, la démocratie directe, etc. Donc c'est un peu ça, c'est carrément ça, c'est une émanation de ça, ces prix. Et alors c'est des prix intruendables, présentés comme tels, avec des campagnes très injonctives pour dire venez participer à ces prix, etc. Et on va voir effectivement donc ces prix se remettre au printemps, donc pour se distinguer bien des affreux prix corrompus de l'automne et sélectionnant donc des ouvrages qui n'ont pas été retenus dans les palmarès. Voilà, donc c'est des prix originaux et qui font appel donc, alors c'est l'introduction de quelque chose qui est un phénomène maintenant massif aujourd'hui, c'est l'apparition de l'amateur dans des systèmes qui jusqu'ici ont été des systèmes d'instances contrôlées par des élites ou des autorités averties, écrivains, médias, etc. Là, ce sont les amateurs, ce sont les lecteurs, monsieur et madame lambda, qui prennent la parole et qui participent au protocole de remise du prix. Et il faut dire que si on compare un peu les palmarès, ben, c'est pas mauvais, quoi. C'est pas plus mauvais que les autres palmarès.
Marie-Rose Guarnieri, les prix de lecteur couronnent-ils une autre littérature ?
Ah, vous commencez directement au cœur du mal, comme dirait le petit Quinquin. Bon, déjà, en résumé, les grands prix qui sont quand même une grande source de revenus pour les maisons d'édition, mais aussi qui est un grand dynamisme pour l'œuvre d'un auteur, d'un grand apport pour l'œuvre d'un auteur. Ces prix se concentraient de plus en plus sur les mêmes livres, sur des livres assez commerciaux, on va dire qu'il y avait un potentiel commercial plutôt qu'un potentiel littéraire audacieux. Donc on cherchait à avoir des livres qu'on pouvait vendre vraiment à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exemplaires. Et on récompensait aussi toujours les mêmes maisons. C'est-à-dire que ça se concentrait autour de trois, quatre maisons. Donc, ces prix de lecteurs ont surgi, je crois, pour essayer d'amoindrir et de mettre en question ce qui se pratiquait immoralement dans la vie des prix.
Et c'est comme ça qu'on les élimine. Voilà. Donc c'est très cruel. Hein. Il n'y a pas besoin de beaucoup de discours par rapport à ça.
Mais comment on fait si quelqu'un, une ou deux personnes...
Eh bien, que cette personne ait le courage...
Alors, on élimine si une seule personne... Non, d'abord, on n'est là pas pour dire c'est pas mal. On est là pour en garder cinq. Claire Barré, qui le retient dans les cinq?
Moi.
Donc il est maintenu. David Bosque, qui retient dans les cinq?
Moi.
Maintenu. Virginie Carton, qui retient dans les cinq?
Moi. Qui consisterait à dire, par exemple, nos deux coups de cœur à chacun les plus grands, et s'ils se retrouvent majoritairement dans nos voix... Non, ça vous plaît pas, cette
Pourquoi
idée?
Pourquoi deux? Pas trois.
Parce que si on dit quatre, on va se retrouver avec nos deux préférés chacun. On peut pas,
si allez,
de toute façon, on n'a pas envie de voir un deuxième pas.
J'aime pas les chiffres pairs, on peut dire trois.
Trois. C'est pas mal de trois, parce qu'on va avoir déjà un petit élément.
Quelle est la singularité de ce prix, si vous devriez le définir, Éric Orsenna?
La singularité, c'est que vous avez le contact deux fois entre ce qu'on peut appeler des professionnels du livre, c'est-à-dire des écrivains et des libraires. Et puis vous avez des gens qui sont juste des amateurs. Et alors ce qui est très étonnant à chaque fois quand il y a la réunion du jury où il y a la moitié des internautes déjà, c'est qu'ils vous assassinent par leur passion. C'est-à-dire que moi j'écris depuis l'âge de 10 ans, 2-3 heures tous les jours, et je vois des gens, j'ai l'impression qu'ils aiment plus la littérature que moi. Je me dis, attends, alors je me donne un grand coup de pied au cul, et je me dis, tiens, ben, tu vas lire un peu plus, le petit loup. Et donc il y a des débats incroyables entre les écrivains et puis les internautes. Il dit, comment t'aimes ça? Mais c'est pas possible. Mais un, t'aimes la lecture autant que nous, et deux, t'aimes ça, et nous pas du tout. Donc des critères absolument différents. Et donc ça, c'est passionnant.
C'est vraiment quelque chose qui m'a intéressé, quoi.
Quelqu'un parle du Vincent Message, ouais, aussi, parce qu'en fait...
Moi, je trouve que c'est un roman qui a vraiment énormément d'attrait et de valeur. D'abord, c'est un vrai roman avec des personnages inventés, et puis l'auteur nous mène par le bout du nez. Vraiment, que ce soit au début comme à la fin. C'est un roman qui s'inscrit dans une histoire de la littérature puisqu'il mélange les genres, le conte philosophique, la dystopie. Voilà, on se trouve qu'il y a un bagage littéraire derrière, il y a une beauté de la langue. Et pour moi, c'est un roman coup de poing qui donne tout son sens à la littérature et à la culture. C'est quelque chose, on n'est plus pareil après, quoi.
C'était le coup de cœur de beaucoup de monde et donc je voulais en avoir un sentiment récent, on va dire. Ça démarre magnifiquement. Les premières pages, c'est terrible. Et au milieu, j'ai eu un gros coup de pompe, quoi. J'ai pas adhéré au milieu toutes les descriptions. Je me suis un peu perdu. Et par contre, le Vincent Message, j'avoue que je vais le relire. Et je vais aller jusqu'au bout parce que voilà.
C'était ma première expérience de jury, comme je disais. Au début de cet entretien, j'ai commencé par publier 2-3 commentaires sur des avis sur le site Entrez-Livres. Puis ensuite, je me suis mis à rédiger quelques-uns de mes avis. Et puis ensuite, je me suis mis à rédiger des avis sur 3 ou 4 sites différents. Et puis ensuite, j'ai ouvert le blog. Et puis ensuite, l'étape d'après, j'ai récupéré des livres au niveau des maisons d'édition. Et puis maintenant, j'appartiens à des jurys littéraires. Quand vous commencez à être sélectionné un jury littéraire, que vous vous retrouvez avec des auteurs et des auteurs réputés ou avec une certaine expérience et background comme Eric Orsenna pour Monsieur le Président, pour ne pas le citer, forcément c'est impressionnant. Forcément c'est même un petit peu intimidant.
Parce que les lecteurs vous semblent incarner une relation au livre et à la lecture différente de vous ou des professionnels, des jurys.
Différente, ils n'ont pas du tout de sorte de d'idées préconçues, ils n'ont pas du tout de entre guillemets qualité, ils n'ont pas du tout de sorte entre guillemets exigence, ils ont des autres exigences, mais c'est très violent, c'est 180 degrés, hein. Il y en a des gens qui les livres les plus nuls, ils sont adorés, et puis les livres qui sont considérés comme les plus nuls. Les plus formidables sont complètement disant mais non c'est ça n'a pas d'intérêt, etc. Donc c'est moi ça m'intéresse vraiment parce que on pourrait très bien imaginer que je sais pas que Lévy, Musso, etc. soient élus à un certain moment, mais bon, comme il y a quand même des professionnels aussi qui disent non, vous pouvez pas écrire une phrase comme ça quand même. Donc ça, moi ça m'intéresse bien, c'est-à-dire la même passion mais avec des formes complètement différentes. Et les lettres, faut voir les lettres de motivation. Les lettres de motivation qu'on reçoit, nous, sur le net pour être membre du jury, les gens, ils se battent pour être membre du jury. Donc, pour passer 3 fois par an, à passer 3 heures à discuter de livres. Le nombre de gens qui aiment les livres, c'est quand même réconfortant. Et c'est pas leur métier. Des amateurs.
Bon, il y a certains livres, ça l'a fait. Il y a d'autres livres, ça l'a pas fait. Et petite anecdote, sans rentrer dans les délibérations... Le vainqueur du prix Orange, Défaite des maîtres et possesseurs de Vincent Message, très grand livre, j'ai parlé d'un chef-d'œuvre littéraire quand j'ai présenté le livre lors de la remise des prix, puisque j'ai eu la chance de pouvoir présenter devant le public le livre. La première fois que j'ai lu, je l'ai arrêté. J'ai lu le début très rapidement et je suis arrivé à un chapitre, le 6 en l'occurrence, et j'ai pas pu. Très dur, et je suis arrivé à un moment où en fait, voilà, j'ai dit ben stop, je peux pas, j'arrête là. Et lors de la deuxième délibération,
quand on discutait de ce livre-là, des collègues jury, lecteurs m'ont dit, alors pour certains, t'es comme moi, et pour d'autres m'ont dit, ouais, mais effectivement, c'est compliqué, mais vas-y, fais l'effort de le passer, tu vas voir derrière, c'est fabuleux. Et j'ai repris le livre, et j'ai relu le livre. Je suis arrivé à ce chapitre 6, j'ai dit, bon, alors je m'arrête, et je prends. J'ai mis du temps à lire le chapitre 6, beaucoup de temps, pas qu'il soit compliqué en soi, mais il est dur. Et parce qu'il est dur, je voulais le comprendre. J'ai fait l'effort d'essayer de le comprendre. Et une fois qu'on a passé ce chapitre, une fois qu'on a essayé d'analyser, on va dire, le pourquoi du comment, et derrière, effectivement, on retrouve la fluidité, on retrouve la beauté de l'écriture, on retrouve tout ce qui fait l'essence, oui, de ce livre, et la fin coule de source. Et c'est vrai que derrière, ben pour moi, le choix était quasiment fait. C'était lui et c'était pas un autre.
Moi, dans l'enquête que j'avais faite, ce qui m'avait sidéré, c'était que la question essentielle, cruciale, c'est-à-dire comment sont choisis les livres mis en sélection, c'était un point aveugle, pas interrogé par les lecteurs qui faisaient partie de ces jurys. Je leur disais, mais qu'est-ce qu'ils choisissent les livres? Parce que vous écrivez. Généralement, on les sélectionne, ils ont écrit une lettre, ils expliquent comment ils sont capables de lire, faire d'une bonne critique, ils sont des grands lecteurs. Mais on ne choisit pas, c'est pas eux qui choisissent les livres qui sont en compétition. Donc, en fait, ils y mettent leur esprit désintéressé sur une sélection qui est choisie toujours par des gens du landerneau littéraire. Donc, c'est quand même un sacré frein à la possibilité d'être dans un système absolument pur. Voilà. Et voilà, c'est assez grisant. Donc, ils ne se posent pas la question essentielle de dire pourquoi on n'a pas choisi les livres qui sont en compétition. Et ce n'est pas eux qui les choisissent, effectivement. Ce sont des critiques, ce sont des gens de la chaîne du livre, ce sont des professionnels de la chaîne du livre qui les choisissent. Donc, ce qu'il faut, c'est quand même sacrément le palmarès, enfin même les sélections et le palmarès.
Quand j'ai eu la réponse, ça a été une explosion de joie, vraiment, parce que je me suis dit, ça y est, c'est une aventure qui commence. Je vais rencontrer Eric Orsenna, le président.
Vous êtes une lectrice habituellement de quel type de livres, Mireille ?
Plutôt romans, documentaires, romans, documentaires, essais, nouvelles, pas trop policiers.
Savez-vous pourquoi Orange a retenu votre candidature ?
Non. Non, je ne sais pas.
Est-ce que vous avez l'impression que les autres membres du jury, les lecteurs comme vous, amateurs entre guillemets, vous ressemblent d'une certaine manière ?
Oui. Oui, je crois que dans ce groupe, je pense aux 7 lecteurs en particulier, oui, maintenant on a appris à mieux se connaître, et oui, je pense qu'on a des ressemblances sur nos lectures, sur nos façons de penser, nos façons de juger ce qu'on lit, oui. Moi, je me considère comme un lecteur lambda, un lecteur populaire, une lectrice populaire. Et pour moi, je représente la voix des lecteurs, en général.
Vous ne travaillez pas du tout dans le domaine du livre, Benoît ? Quel est votre métier ?
Du tout, je suis ingénieur mathématique appliqué de formation. Je suis actuellement chef de projet dans une petite PME qui gère la mobilité urbaine. Donc il n'a effectivement strictement rien à voir avec la littérature ou le côté littéraire de mon métier. Et donc cette partie stress, on va dire professionnel, activité professionnelle intense, me demande également d'avoir des parties de calme pour pouvoir survivre, entre guillemets, même si le mot est un petit peu fort. Et toute la partie décompression passe dans la littérature, passe dans la lecture. Et je lis donc énormément à ce moment-là, le matin, un petit peu le midi, un petit peu le soir, pour sortir du contexte, pour m'évader, pour m'instruire et pour surtout se décorréler, on va dire, la partie professionnelle de la partie personnelle. Quoi.
Le maître mot, en fait, c'est le plaisir. Le lecteur cherche du divertissement. Voilà, pas tous. Il y a une élite de gros lecteurs qui ne cherchent pas ça, etc. Mais majoritairement, on est là-dedans quand même.
Abeline Majorelle.
Voilà. J'ai pris, d'ailleurs, quand vous lisez leurs critiques, j'ai passé un bon moment. Je les recommande à ma grand-mère. Voilà. On est dans cette notion de la littérature, et d'ailleurs on ne dit pas la littérature, hein, on dit la lecture, comme un plaisir, comme un moment à passer, comme une distraction, comme quelque chose d'horizontal. Le livre garde cette image sociale un peu supérieure à tous les autres divertissements, mais fondamentalement, ce que vous faites, c'est un divertissement.
Dans le cadre du jury littéraire FNAC, j'ai eu l'occasion de lire des romans qui ne faisaient pas vraiment partie de mon univers de lecture. C'est le cas de La première pierre de Pierre Jourde. Je pense qu'il s'agit d'un des romans sur lequel j'ai eu le plus de mal à m'accrocher. Le sujet est pour le moins inhabituel, on a ici un livre qui parle d'un autre livre du narrateur. Du coup, où est l'intérêt ? Quand j'ai reçu ce livre, il n'était pas encore finalisé pour sa parution et il n'y avait pas de résumé. J'ai mis un certain temps à comprendre qu'on parlait ici d'une histoire vraie. Une fois que je l'ai compris, soit pratiquement à la fin du livre, le roman a pris une autre dimension, mais il était déjà trop tard, j'étais déjà bien trop ennuyée par ma lecture. Vous me direz, pour moi, il y avait un énorme fossé littéraire. J'aime les phrases courtes qui apportent du rythme à la lecture, comme dans Les Fuyants d'Arnaud Dudek. Ici, les phrases sont très longues et on finit par se perdre dans cet enchevêtrement de mots.
C'est pas cumulatif dans le sens où on voit bien, par exemple, que la blogosphère des essais est pratiquement inexistante. Que certains auteurs qui sont des auteurs... Si par exemple, sur les blogs, vous trouvez des auteurs verticales, c'est une erreur. Ils se sont trompés. Enfin, ou alors, c'est chez les Happy Few. Voilà. Vous retrouvez pratiquement tout le temps les mêmes maisons d'édition, pratiquement tout le temps les mêmes titres. En plus, elles se les passent entre elles. Je dis elles parce que 78% des lecteurs sont des lectrices. Hein. Voilà. Chez les blogueurs, c'est pareil. Je dirais même que chez les blogueurs, la proportion de femmes est plus importante.
J'ai dirigé 10 ans une grande librairie dans le 5e arrondissement. J'ai créé ma librairie à Montmartre. Je me lançais dans une forme aussi de risque absolu, puisque je ne connaissais pas du tout le quartier. Et je redémarrais en quelque sorte à zéro. Mais en arrivant à Montmartre, m'a fait avoir un regard différent et avoir une urgence à essayer de ne pas créer une librairie de plus.
Marie-Rose Guarnieri.
Et puis, j'ai saisi soudain, de façon beaucoup plus accrue, la solitude des écrivains et l'isolement des écrivains, de certains écrivains qui étaient engagés comme ça, de façon absolue, dans la littérature, et qui n'avaient fait aucune concession, et qui, au fond, de plus en plus se retrouvaient à la marge. Et c'était des auteurs, pourtant, pour moi, qui étaient centraux. Et il y avait cette grande brasserie, Place Clichy, quand j'étais venue la première fois pour essayer de repérer ma librairie, j'avais repéré cette brasserie immédiatement. Et je pensais à Céline qui démarre son voyage au bout de la nuit, qui s'appelle Engagez-vous, ça commence comme ça, Engagez-vous. J'ai pensé à Miller qui a écrit Jour tranquille à Clichy, dans cette brasserie. J'ai pensé au poète du Chat Noir, Verlaine, tous ces Aristide Bruand, Toulouse-Lautrec, tous ces gens blessés par la vie, révoltés, insurgés. J'ai pensé à la Commune et je me suis dit, j'ai envie de voir s'il est possible. Parce que j'en avais aussi assez de ce marronnier dans la vie littéraire. Chaque rentrée littéraire, il y avait ce côté, oui, les prix, vraiment, on en a assez, pour ci, pour ça. Je me suis dit, tous ces discours sont finalement assez stériles. Je suis allée bien sûr voir la brasserie Vépler, qui avait une histoire littéraire dans ses murs. Je lui dis quand même, monsieur Bessières, brasserie indépendante aussi, qui n'appartient à aucun groupe, s'il n'y en a plus beaucoup dans Paris. J'avais cette chance-là, grande brasserie. Et je vais voir Michel Bessières. La chance, c'est que un Aveyronnais, droit dans ses bottes, qui m'écoute et qui me dit « Bon, écoutez, Marie-Rose, lui aussi, il dit, il a fait un pari pascalien, il a dit « Bon, écoutez, d'accord, je vous suis, allez-y, on verra bien, si ça ne marche pas, bon, on arrêtera l'année d'après, quoi. » Et donc, je pense qu'il s'était dit au début, Michel, elle va faire un petit prix, elle va se mettre, je vais lui donner 3 tables dans le fond, je lui ferai un petit cocktail et on n'en parle plus. Mais moi, j'avais comme idée qu'il fallait fermer, ce qu'il n'avait jamais fait de sa vie, il ferme jamais une journée de sa vie dans la brasserie. Je voudrais qu'il ferme et qu'on fasse une très grande soirée pour honorer nos écrivains. Parce que si je donne pas d'impact aussi à ce geste littéraire qu'on veut faire, j'avais pas envie que ça soit un prix qui soit dans les 2002e prix, puisqu'il y a 2000 prix en France, comme vous le savez. Je voulais qui soit au cœur de la course des 10 prix, des 10 grands prix en France.
Nous allons boire une bière au Replay.
Une entreprise finance, porte un prix littéraire, est-ce que ça c'est problématique pour vous ou pas du tout? Est-ce que vous avez le sentiment de servir l'image d'une entreprise ou pas du tout?
Pas du tout. Pas du tout, pour parler d'Orange, puisqu'il s'agit du prix d'Orange chez nous, Orange a une vraie notion de culture, a une vraie image de culture. Ce prix existe depuis 2009, ce prix est porté par Christine Albanel et Monsieur Orsena. Je ne pense pas qu'on puisse dire que ça sert, que c'est de la publicité pour Orange. Bien au contraire, ça enrichit Orange, mais ça surtout valide tout le côté culturel d'Orange. Et c'est pour cela aussi que j'appartiens à la communauté de lecteurs.com depuis 3 ans, que je suis un fervent participant de cette communauté et que je défends sur les réseaux sociaux, sur mon blog, cette communauté de lecteurs.
Et les communautés, en fait, permettent de mieux cibler et, à l'intérieur d'elles, de recommander de façon efficace. Puisque à peu près tous les sondages vous diront que le meilleur moyen de recommander un livre, contrairement à tout ce qu'on essaye de faire, c'est ni les revues, ni les journaux, ni la télé, c'est vos proches. Donc en fait, en faisant en sorte que les lecteurs se reconnaissent entre eux et se créent en communauté, ben en fait, vous vous dites que vous allez faire un effet de dispersion, puisqu'en fait, ils vont recommander les uns aux autres. Donc après, il faut que ça dépasse la sphère simplement des lecteurs qui font partie de votre communauté, des lecteurs qui viennent sur les blogs, des lecteurs qui... Enfin, voilà. L'enjeu ensuite, c'est de toucher d'autres communautés pour agglomérer le plus de communautés possible.
En fait, c'est toujours de la promotion pour Orange. Qu'est-ce que ça rapporte à Orange concrètement?
Ce projet, nous le faisons dans une démarche de responsabilité sociale d'entreprise. Donc, vous avez raison, il y a toujours le logo Orange. Mais enfin, si on ne signe pas ce qu'on fait, ce ne serait pas très courageux non plus.
Armelle, Pascoe.
Je pense que on a pris un risque aussi avec ce prix Orange du Livre et cette communauté qu'il a fallu faire vivre. Et donc, il y a vraiment une équipe qui travaille à ça au quotidien. Maintenant, voilà, nous, on considère que le numérique, qu'il aide à diffuser la culture. La culture, c'est important. C'est justement, hein, chacun a peur qu'avec le numérique, il y ait moins de culture. Nous, on pense que le numérique peut permettre d'avoir plus de culture dans sa vie quotidienne. Et ma foi, bah, ça marche. Lecteurs.com, il y a une activité quotidienne extrêmement forte. Donc ça, c'est pas du marketing, c'est rien du tout. C'est juste que ce site, il existe, qu'il est identifié par des gens qui sont férus de lecture et qui, du coup, se donnent rendez-vous. Voilà, c'est un réseau social, c'est tout ce qu'on veut, c'est ce qui marche aujourd'hui. Voilà, c'est pas une démarche commerciale. Maintenant, vous avez raison, mais c'est comme toute action de mécénat d'une entreprise. Certes, elle met son nom dessus, mais c'est aussi parce que maintenant, les entreprises savent qu'elles ont un rôle citoyen à jouer et que, au travers de ce type d'action, elles contribuent vraiment à créer un équilibre dans la société, à créer de l'envie, du partage. Les gens viennent parce qu'ils ont cette passion et c'est une passion positive, quoi. Voilà, je crois qu'on aide à faire vivre ça.
Orange a un réseau donc qui s'appelle Lecteur, qu'il faut animer. Et ce réseau, en fait, vient du fait que Orange a plusieurs labos, plusieurs façons d'imaginer le futur, et que dans ses attributions de grand organisateur et financeur du numérique. Pendant un temps, ils ont longtemps pensé que la lecture numérique allait prendre un essor monstrueux, ce qu'elle ne fait pas pour l'instant en France. Et que, en fait, ils avaient lancé ça plus en forme d'expérimentation pour valoriser plus tard les produits qu'ils auraient. Et justement, toute la recommandation culturelle, donc le big data sur la culture, etc. Et que, en fait, ils l'ont fait, à mon sens, je peux me tromper, mais je pense d'abord pour ça.
Mais a priori, c'est plutôt bon signe que des entreprises, et elles sont nombreuses, Orange, les hypermarchés Leclerc, la SNCF, financent des prix littéraires.
Bah écoutez, ce qui est inquiétant, c'est de voir que le mécénat littéraire est en plein déclin, et que maintenant, les entreprises, quand elles veulent faire du mécénat culturel, elles vont soit vers les œuvres d'art, enfin la sculpture, peinture, parce que là, c'est un marché, etc., qui rapporte beaucoup, soit elle va, pour se faire vraiment une image de marque, du côté de l'environnement, parce que l'écologie, tout ça, c'est très à la mode, ou de l'humanitaire. Donc là, on est en train de voir les entreprises virer parce que les effets au niveau... Donc ça veut dire que quand même, les effets de la culture sont plus évidents. Donc ça veut dire que là, il y a une vraie crise quand même de l'espace de la culture en France, dans le sens où elle est plus où elle est plus soutenue, elle est même boudée, voilà, par ces entreprises qui ont de l'argent.
Donc le site, le blog s'appelle À l'ombre du noyer. Donc À l'ombre du noyer, qui a à peu près un an, puisque j'ai décidé d'ouvrir ce blog à l'occasion de la rentrée littéraire de l'année dernière, de septembre 2015. C'était une continuité en fait dans la lecture et dans la volonté de partage que j'avais. Et le déclic a été ma fille, qui l'été dernier s'est mise à lire, contrairement à ses habitudes, on va dire, et qui, un après-midi d'été, m'a dit « Tiens, viens papa, on va lire À l'ombre du noyer ». J'ai trouvé ce nom assez sympathique, qui correspondait parfaitement à ma philosophie. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'ouvrir, de me lancer, de me jeter à l'eau et d'ouvrir un blog qui s'appelle donc « À l'ombre du noyer ». Bloguer demande quand même pas mal de temps, et donc plus on peut gagner de temps, on va dire, sur la forme, plus on a de temps pour le fond, et ce qui pour moi importe le plus, quoi. Le typhon Haiyan, ou Yolanda aux Philippines, fut le 35e cyclone tropical de la saison cyclonique 2013 dans le nord-ouest de l'océan Pacifique. C'est ce sujet particulièrement dur qu'a choisi la journaliste Anaïs Yobé pour son premier roman, Les mains lâchées, paru à l'occasion de cette rentrée littéraire 2016. Je remercie particulièrement les éditions Plomb pour l'envoi de cet ouvrage en avant-première. Une fois n'est pas coutume, avec cette maison d'édition, la première chose que l'on remarque est la superbe couverture colorée. Encore une fois, une belle réussite, que l'on parle de la couleur ou de la photo illustrant le titre. Comme on s'en rend compte après avoir tourné la dernière page, celle-ci illustre idéalement l'ambiance de l'histoire. Je ne veux pas dire que j'ai de l'importance, mais quelque part, il y a une certaine attente, à la fois des gens qui vont me lire, à la fois des gens qui me font confiance, mais c'est vrai que certaines maisons d'édition me font confiance, voilà. Et puis ensuite, ça permet également d'avoir accès à des manifestations auxquelles j'aurais pas forcément eu accès en tant que lecteur lambda, on va dire. Je pense par exemple à un passe-presse pour le dernier forum FNAC du livre, passe-presse également pour le salon du livre de Brive l'année dernière. Voilà, ce sont des gens qui font confiance et qui donnent une vitrine à des blogueurs, et c'est chose que j'apprécie.
Rien que de dire « je suis chroniqueuse à tel endroit, est-ce que je peux avoir un service de presse ?» Je les ai tous su. J'ai pas acheté un livre de la rentrée littéraire. Je les ai tous su, rien qu'en... et sans engagement. Hein. Je n'ai pas dit que j'allais faire absolument un papier. Donc ça veut dire que c'est passé dans les pratiques des éditeurs. Oui, ça laisse rêveur hein, quand même, hein, de se dire le nombre de livres qui sont envoyés comme ça, avec l'espoir voilà, qu'il y ait un papier de fait, qu'il y ait quelque chose, un peu de bruit.
Alors, cette année, je n'en ai pas encore fait de mauvaise, mais en général, ma cible favorite, c'est Eliette Abécassis. Ça vous dit, Eliette? Alors, vous voulez que je vous la lise?
Abeline Majorelle.
Donc c'est la critique sur « Et te voici permise à tout homme » donc d'Eliette Abécassis. À la lecture de ce dernier opus de cette normalienne, vous saurez que le plaisir féminin est vivement recommandé par la religion juive, que l'impureté des règles est transcendée par le retour du désir, que l'union libre n'est pas interdite et que pour divorcer, il faut payer. Pour la dernière assertion, vous vous en doutiez. Mais sachez que pour répondre à l'énoncé d'un bac de philo « Quel est le prix de la liberté ?», Anna, l'héroïne de ce roman, répond « Cela vous coûtera tout ». Pour nous faire prendre la mesure de cet épineux problème, Eliette Abécassis a mis en place une narration simpliste mais efficace, du moins au vu des résultats trimestriels du groupe Arlequin. Tout au long du roman, l'auteur utilise un rythme ternaire qui appuie sur le bouton du cliché plus sûrement que sur celui du style. Prenons quelques exemples. Je cite « J'entendis une voix, ou plutôt la musique d'une voix, une mélodie douce et grave, d'une grande justesse, harmonieusement posée. » Page 1. Et même si elle ne dure, je veux croire qu'en lieu sûr, il existe encore, lorsque tout disparaît, une petite étincelle prête à s'embraser, le temps d'un souffle, le temps d'un baiser. Page 65. Ou encore, je regardais son appartement, ses objets, ses meubles, carrés sombres, ses couleurs pâles ou noires dans le clair-obscur. Page 84. C'est un livre d'amour qu'a voulu nous livrer Eliette Abécassis, un amour profond et sensuel et qui débuterait par cet échange de textos. Je cite... Quelle est ton expérience de l'absolu ? Il répondit, ce que je cherche tous les jours, ce vers quoi je tends, la lumière dans ma teinte, celle d'un peintre ou d'une intuition, une rencontre ? Fin de citation. Que le premier dragueur qui n'a pas demandé quelle était l'expérience de l'absolu à sa compagne lui lance la première pierre. L'amour est sensation autant que transcendance, et Eliette, avec un talent elliptique sans pareil, nous le prouve. Je cite... Cette nuit fut celle où enfin je m'abandonnai. Il m'embrassa, m'enlaça, m'emmena vers lui et lui vint vers moi. Ce fut un ravissement dans lequel j'essayai de rester moi-même, m'accrochant à mes piliers, foudroyé par sa présence. Un trou dans le temps, un autre espace, un mystère. Qu'est-ce qu'une prière ? Il me semble que ce n'est pas autre chose. Fin de citation. Finalement, Anna, notre héroïne, cherche l'amour et un livre. Un livre qu'elle décrit avec le minimalisme rationnel qui la caractérise ainsi. Citation. Celui qui parle de la vie à un niveau que personne ne voit, mais que tout le monde perçoit, celui qui serait comme une porte ouverte sur l'autre monde, le livre universel et intime, qui parviendrait à mettre les mots sur mes aspirations secrètes, mes pensées, serait un livre d'amour, de poésie et de philosophie. Eh bien, Anna, ça ne sera pas celui-ci. Les blogueurs, en général, ont ouvert un espace sur Canal Blog, plus pour le plaisir et pour le partage, ça vraiment. Voilà. Puis les maisons d'édition se sont aperçues que ça faisait un espace en plus. Moi, je regarde de façon statistique, en fait, sur les blogs, etc. Vous pouvez voir, par exemple, statistiquement, les maisons d'édition qui ont le mieux, on va dire, arrosé les blogueurs. C'est-à-dire celles qui ont commencé bien en amont, qui ont des attachés de presse qui ont des relations interpersonnelles avec les blogueuses parce qu'elles ont été malines et qu'elles ont été... parce qu'elles sont bonnes, elles font bien leur métier, etc. Et qui leur ont dit, bah, tu vas lire ce livre-là, ça va être bien, etc. Et c'est marrant, ce bouquin-là, vous savez que vous allez le retrouver sur une quinzaine, une vingtaine de blogs, tous à la suite et à peu près au même moment.
Les petites, entre guillemets, maisons d'édition utilisent beaucoup et de plus en plus les blogueurs, justement pour faire de la communication, pour faire du buzz. Certains auteurs également, que je disais tout à l'heure, je suis en relation, j'ai des relations avec certains auteurs que je n'aurais jamais cru dans le passé. Ça permet de mettre en avant certains livres. Le dernier en date, je pense par exemple au livre d'Olivier Bourdeau, En attendant Maud Jungles, qui est parti d'une toute petite maison d'édition bordelaise, qui a été portée par les réseaux et qui aujourd'hui a complètement explosé et est sur le devant de la scène. Ça fait partie des choses un petit peu miraculeuses, on va dire, mais ça montre aussi l'apport du lecteur amateur et de la puissance des blogueurs, de la communauté des lecteurs, par rapport justement à tout ce milieu industriel, tout ce milieu un petit peu trop télévisuel, un petit peu trop cadenassé, et si j'osais, ces prix qui sont un petit peu trop aujourd'hui caricaturaux.
Marie-Rose Guarnieri, au Véplaire, qu'est-ce que vous apportent les lecteurs ?
Alors, j'ai pas fait le clivage, justement, les prix de lecteurs sont vertueux et le prix des professionnels sont vraiment des maudits, des corrompus, des... Non, je trouvais que c'était le débat n'était pas à cet endroit-là. Le débat, il était qu'il fallait des gens indépendants, il fallait des gens formés à la lecture, parce que le goût...
Marie-Rose Guarnieri.
Le goût, c'est quelque chose qui s'éduque, qui s'apprend. C'est moi, vraiment, libraire, qui vous dit qu'on met plus de 10 ans avant d'être un bon libraire et d'avoir un œil exercé à pouvoir... classer, penser dans la littérature et comprendre ce qu'on vous demande et pouvoir mettre en relation un lecteur avec ce qu'il cherche. Voilà. On démarre avec 120 livres Et à la différence de beaucoup de prix de lecteurs dont vous me faites part depuis tout à l'heure, c'est là où je vous dis, on a des nuances, nous aussi. C'est-à-dire que moi, je ne fais pas de présélection. On prend du temps. Donc, c'est 7 réunions. On en fait 2 avant de partir en vacances. Et là, sur les 120, livre à livre, on fait un diagnostic. Est-ce que c'est pour le prix? Est-ce que c'est pas pour le prix? Alors, comme je vous ai dit, il y a lecteur et lecteur. Moi, je prends des grands lecteurs formés. Hein. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai 2 chercheurs. J'ai des gens très, très haut niveau. J'ai une énarque. J'ai des gens qui sont des bonnes têtes, qui travaillent, qui savent travailler, qui savent reconnaître un style, une langue, un travail, un dispositif littéraire. C'est quand même des gens qui ont beaucoup, beaucoup d'historique dans la lecture. Hein. Et surtout, c'est que... Parce qu'un prix littéraire, c'est pas « j'aime, j'aime pas ». On leur dit tout de suite « vous êtes des grands lecteurs ». Le propos d'un prix n'est pas de dire « j'aime, j'aime pas ». Le propos d'un prix, c'est d'essayer de voir, dans des livres même parfois imparfaits, ce qui a été mis en place d'innovant, et d'essayer de sentir un écrivain qui est en train d'advenir ou qui a vraiment un talent qu'il faut soutenir pour demain. Vous voyez, il y a un livre qui a été choisi, là, dans notre liste, je tairai. Vous voyez, je me suis rendu compte que moi, je l'avais lâché, et eux, qui ont beaucoup moins de préjugés. Moi aussi, je suis faite du milieu. C'est-à-dire que, ça vient de là, je le lâche. Et en fait, eux, ils l'avaient lu. Il y en avait plusieurs qui avaient lu jusqu'au bout, qui ont dit, attention, non, c'est un livre un peu aride, comme ça, au démarrage, et on a l'impression de... Et en fait, non, c'est un livre qui se mérite pour ça et ça et ça. Eux, ils ont une attention, bien sûr, pour ces éditeurs de création qui font vraiment de la littérature et qui nous surprennent chaque année. Mais ils ont une acuité très libre dans le défrichage. Et je voulais des gens qui allaient ouvrir des livres sans avoir trop d'histoire sur les catalogues. Et donc, ils allaient les lire vraiment.
Quels sont vos auteurs préférés? Ah, vaste question. Le dernier ouvrage, Repose-toi sur moi, de Serge Joncourt, est pour moi un énorme coup de cœur. Et après, d'autres qu'on découvre, qu'on aime sur certains livres, qu'on aime moins sur d'autres. J'ai découvert la lecture jeune, avec des livres un petit peu comme tous les adolescents. Marcel Pagnol, forcément. Quand j'ai l'occasion, je reprends. Saint-Exupéry et Le Petit Prince, que j'ai lu je ne sais combien de fois et qui me fait toujours autant de bien. Hemingway, Son vieil homme et la mer, ce sont des livres qui sont durs, mais ce sont des livres qui m'ont marqué. Et puis ensuite, en évoluant, en arrivant un petit peu dans les études supérieures, Montesquieu, Rousseau, je suis bordelais, donc Montesquieu et Montaigne ne peuvent que me parler, un petit peu de Rousseau. Et puis Victor Hugo, qu'est-ce que ma vision politique, ma construction politique passe également par du Victor Hugo.
Le principe de la vision cumulative de la littérature, ou de n'importe quel savoir d'ailleurs, c'est de commencer à un niveau, vous commencez par oui, puis après vous passez à Fantomètre, et quand vous êtes passé à Fantomètre, vous vous dites, ça y est, je suis à l'adolescence, c'est génial, je vais lire du young adulte, hein, vous lisez Harry Potter, puis quand vous avez lu Harry Potter, un jour vous vous dites, oh tiens, si je lisais Jane Eyre. Hop, je passe un niveau au-dessus, puis après vous dites, oh là là, Bret Easton Ellis, allons-y. Enfin, vous voyez, normalement, c'est ça. Voilà. Et vous pouvez ensuite, une fois que vous êtes arrivé, on va dire, au niveau Bret Easton Ellis, vous pouvez redescendre, cumuler, etc. C'est là où je vous dis, là où c'est un peu dramatique, c'est que c'est assez horizontal, en fait. Vous avez des nanas qui ont des blogs depuis 10 ans, sur lesquels vous pouvez lire... oui, j'ai pris un plaisir de lecture certain à lire ce livre, mais c'était un peu difficile. Quand on bouffe 40 par an, il y a quand même un moment où normalement...
Ça n'empêche pas d'être très courtisé par les éditeurs. Donc
non, ça n'empêche pas du tout. Non, parce que finalement, en fait, ce qu'elle représente, et ça c'est vrai, c'est le lecteur lambda, c'est-à-dire celui qui va aller dans son espace culturel Leclerc et qui va regarder le libraire de chez Leclerc et lui dire « Oh là là, j'aimerais bien lire quelque chose, je sais pas quoi ». J'aimerais bien passer un bon moment.
Moi, ce que j'aime bien, ce que j'essaye sans prétention, de mettre en avant, c'est plus ce que je ressens à la lecture de ce livre. Est-ce que ce livre se lit facilement? Est-ce que il est accessible à tout le monde? Est-ce que il est parlant? Est-ce qu'il est marquant? Est-ce qu'il est très descriptif? Ou à l'inverse, est-ce que il nous laisse à côté de la route? Est-ce que je vais me mettre vraiment dans la peau de ce personnage-là? Est-ce que je vais vraiment avoir du mal à lire? Voilà. Si je prends un exemple simple. En attendant The Jungles, Olivier Bourdeau, un livre qui a fait un buzz extraordinaire, qui s'est vendu à plus de 240 000 exemplaires. Vous prenez le livre, j'ai eu la chance de découvrir le livre en avant-première au mois de novembre 2015, sur les prémices de la rentrée littéraire de janvier. J'ai eu droit à la lecture en avant-première pour le comité de lecture de culture organisé par Cultura. C'était sur leur site, en fait, on devait s'inscrire. Deux trois questions, donnez vos deux trois derniers coups de cœur, combien lisez-vous de livres, qu'est-ce que vous lisez, puis si vous aviez un blog, ce genre de choses. Et j'avais été sélectionné par Cultura, et Cultura m'avait donc envoyé cet ouvrage en avant-première. Alors l'idée de Cultura est de sélectionner en fait ce qu'ils appellent leur coup de cœur et leur découverte, et de mettre en avant 5-6 livres en règle générale à chaque rentrée littéraire.
Mais les blogueurs, on dit que les blogueurs représentant le lecteur lambda, tel que vous êtes défini vous, peuvent définir des tendances grand public.
Je le pense.
L'amateur est en train de concurrencer, mais de manière délirante, les instances professionnelles. Je pense même à la critique média, à la critique presse.
Sylvie Ducas.
Elle est mais ridicule en termes de prescription, en effet de prescription, par rapport à ce qui se passe sur certains blogs.
Alors que paradoxalement, la critique littéraire professionnelle, elle voit son espace se réduire.
Ah mais catastrophique. Et là aussi, précarisation, enfin j'ai... j'en ai rencontré beaucoup dernièrement. C'est catastrophique. On a trop dit aussi qu'ils étaient eux-mêmes de collusion et de connivence avec voilà. Donc ils font les frais de ça. Ils font les frais aussi d'une crise de la presse avec réduction, mais absolument catastrophique des pages livres et même des pages culture tout court. Donc quand vous avez un espace extrêmement réduit pour mettre en avant, pour parler de livres, qu'est-ce que vous faites? Ben moi, je ferais comme eux. Je parlerais plutôt des livres de manière laudative. Je ne vais pas éreinter des livres que j'aime pas. Donc, il y a l'effet pervers de, voilà, peu d'espace. Donc, on loue un peu, tout le monde loue un peu tout le monde. Et effectivement, moi, je pense qu'il y a un effondrement de l'effet prescriptif de la presse écrite, hein, qui est inquiétant.
Et de monter en puissance de l'amateur.
Ah oui.
Je ne sais pas si on préfère le blogueur aujourd'hui aux critiques littéraires. Il y a cette facilité de dire que, si je fais une analogie avec la politique, tous les politiques c'est tous pourri, on croit plus en la politique et il faut remettre le citoyen au cœur des décisions. Oui, clairement oui, mais pas que. Je fais partie de ceux qui disent qu'il faut quand même du politique, il faut quand même de l'expert, il faut que ces gens de vision. Et je pense que dans le domaine littéraire, c'est un petit peu la même chose. Il faut que chacun joue son rôle, il faut que chacun reste à sa place. En ce qui me concerne, modeste blogueur, je n'ai pas vocation à être critique littéraire et à remplacer un critique littéraire, et je ne veux pas l'être. Moi, je vais donner mon avis, comme je disais tout à l'heure, mes sensations, mon sentiment sur le livre, mais je ne vais pas utiliser... je ne vais pas faire une critique qui va se vouloir vraiment littéraire et professionnelle. Voilà.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo book haul du mois de mai et du mois de juin réunis. Et donc, je vais commencer tout de suite avec les services presse. Ça fait plusieurs mois déjà que je suis en partenariat avec les éditions Albin Michel. Et donc, ces deux derniers mois, ils m'ont envoyé le dernier livre de Mary Higgs Clark, donc Le Temps des Regrets. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, donc ça ne sert à rien que je vous fasse un résumé. Je vous mettrai le lien juste ici. Et ils m'ont envoyé également Le Coma des Mortels, écrit par Maxime Chatham. Pareil pour ce livre, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, vu qu'il fallait que je rende ma chronique sous un mois. Donc, le lien sera juste ici. Suite à une rencontre à un salon du livre, dont je vais vous parler tout de suite après, L'auteur en question m'a envoyé son dernier livre qui va sortir prochainement, donc à la rentrée. Donc l'auteur c'est Arnaud Friedman et il m'a envoyé son livre La vie secrète du fonctionnaire aux éditions J.C. Lattès. Comme vous le savez maintenant, les éditions Sonatine m'ont envoyé un employé modèle et un prisonnier modèle écrit par Paul Cleave, donc aux éditions Le Livre de Poche et aux éditions Sonatine, parce qu'ils m'ont envoyé le grand format du tome 2 et vu que je n'avais pas lu le tome 1, ils ont accepté de me l'envoyer en poche. Voilà.
Vous allez voir, alors je dis pas que tout est bon, hein, mais vous allez voir sur YouTube, ce sont même des très jeunes filles qui font, elles, des millions de vues. C'est-à-dire que les éditeurs ont très bien compris qu'ils peuvent faire vendre mais des tonnes de livres en les draguant un peu, hein, ces personnes. Donc on voit émerger, et c'est vraiment une réalité aujourd'hui, des tas d'instances amateurs qui disent, alors dans le numérique aussi, numérique, enfin, on entend la voix des lecteurs. C'est quand même marrant, l'édition littéraire. Les livres sont faits pour des lecteurs, on présuppose qu'ils sont comme ceci, comme cela, mais on n'a jamais su qui ils étaient vraiment. Il y avait vagues enquêtes sur les grands lecteurs, et puis point barre. Or là, Internet, vous entendez les voix, vous les entendez s'exprimer. Alors il y a des mises en scène, hein, c'est pas un miroir au bord du chemin, hein, faut faire attention, ça peut être très truqué, etc. Mais quand même, on entend des voix qui racontent « j'aime ça, j'aime pas, je revendique ceci, cela ». Et là, ça c'est en plein essor, et c'est des phénomènes très observés par les chercheurs. Parce que c'est en train de bouleverser les espaces de la prescription, donc de la désignation de la valeur. Moi, je suis dans une formation métier du livre, un master. Quand je demande à mes étudiants où est-ce qu'ils se renseignent, eux ne se posent même pas la question de l'autorité ou de la validité de celui qui parle. Ils vont sur Internet, ils ont 2-3 endroits qui regardent, et c'est tout. Donc sans se poser la question de la validité, voilà. C'est ce qui peut expliquer des millions de vues. Pour des adolescentes qui sont là avec leurs livres et qui font surtout beaucoup de mimiques, où c'est le personnage qui prescrit, qui est mis en avant plus que l'objet livre. Mais en même temps, d'un point de vue symbolique, c'est des espaces où on voit des jeunes dire « j'adore le livre, je le montre, voilà, c'est plutôt bien ».
Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Cette vidéo, ce sera un book haul, donc je vais vous présenter les achats que j'ai faits au mois de juin. Le premier livre que j'ai acheté, c'est Entre les murs de François Bégaudeau. Alors celui-ci, je l'ai acheté un peu par hasard, je l'ai vu et je me suis dit, tiens, ça c'est un sujet qui me branche, qui me plaît. Je savais même pas en fait qu'il existait en livre, j'avais déjà entendu parler du film qui avait reçu la Palme d'Or à Cannes, et par son sujet, il m'intéresse beaucoup. Donc comme je vous l'ai déjà dit, je vais devenir normalement prof de français en septembre, du coup, tout ce qui traite un peu de sujets m'intéresse particulièrement. Le deuxième livre que j'ai acheté, c'est encore un classique, c'est Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee. Celui-là, il m'a été vraiment énormément recommandé, notamment par ma maman. C'est un livre classique, donc on va suivre l'histoire d'un avocat. J'en sais pas tellement plus, je pense qu'on va aussi suivre les enfants de cet avocat. J'ai pas énormément d'informations à ce sujet, et je préfère que ce soit comme ça.
Je pense qu'il faut réfléchir à à investir ces espaces, YouTube, les blogs, etc., pour y défendre une autre idée de la littérature. Il y a quelqu'un qui fait ça, qui est vraiment un pionnier, qui l'aura été toujours, c'est François Bon. François Bon, le tiers-livre, publie.net. Et là, où est-ce qu'il est, François Bon? Il est sur YouTube. Ça veut dire que c'est là, à mon avis, entre Facebook et YouTube, que se jouera l'avenir de la littérature. Actuellement, je regarde ce qui se passe, moi, ce qui s'écrit. Il y a une écriture littéraire, des écritures littéraires, qui circulent sur ces espaces. Voilà. J'ai l'impression qu'on sort du livre.
Lecteur, le nouveau jury, avec Abeline Majorel, Armel Pasco, Marie-Rose Guarnieri, Sylvie Ducas, Éric Orsena et les membres du jury du prix Orange 2016, Mireille et Benoît Lacoste. Mixage, Alain Joubert. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Guillaume Baldi.
LSD, la série documentaire, c'est fini pour aujourd'hui. Et si vous voulez nous relire, bibliographie, lien, nous podcaster pour les salons ou nous réécouter pendant les délibérations, c'est sur la page de l'émission sur le site de France Culture. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook et sur Twitter. Et demain, troisième chapitre de la rediffusion, le prix du refus. Mais dans un instant, juste avant le journal de 18h, on retrouve Émilie Chaudet.